Je vous propose de continuer parce que ce soir, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup dans Popcorn. Il est grand reporter, il est déjà passé ici avec nous. Et il vient nous parler d'un documentaire qu'il sort demain sur Jérôme Jarre. Il va un peu tout nous raconter. Ce soir dans Popcorn, les amis, on reçoit, j'allais dire Jérôme Jarre, c'est Charles Villard qu'on reçoit ce soir.
Ah ben il est là.
Charles Villard qui est avec nous. Super, installe-toi Charles. La surprise, le retour, comment tu vas déjà?
Ben ça va, je pense que je vais arrêter de prendre l'avion et faire plus de reportages après cette conversation, mais ça va, je suis hyper content d'être là.
Pas de Boeing, on te dit. Alors, t'es grand reporter chez Brut, ça fait combien de temps maintenant que...
7 ans.
Ah ouais, c'est vrai
ça commence à faire un bout, ouais.
Ça commence un peu à dater. T'as pu couvrir quand même pas mal de zones de conflit dans le monde. Ce soir, tu viens nous présenter ton nouveau documentaire qui sort demain sur Prime Video. Il concerne Jérôme Jarre. Déjà, j'étais curieux. Dans le chat, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous connaissez Jérôme Jarre? Parce que on va lancer ça directement dans le chat, parce que je suis pas sûr du tout déjà, parce que c'est vrai que ça fait quelques années. Jérôme Jarre, c'est l'époque Vine au tout début, donc on est en 2013-2014, 9 millions de followers environ en 2015 sur Vine, hein, plus d'1,5 milliard de vues. C'est allé jusqu'en 2017-2018. On va avoir un résultat. Le résultat, est hyper surprenant pour ceux qui sont sur Internet depuis longtemps. 66% de noms, de beaucoup de gens qui ne connaissent pas spécialement Jérôme Jarre.
C'est 67%, c'est dingue.
C'est énorme.
C'est ouf.
C'est quand même fou. C'était le plus gros créateur de contenu français à l'époque, non?
Dans le monde. C'était le français le plus connu d'Internet dans le monde. Il avait des millions d'abonnés sur tous les réseaux. Et dès qu'il faisait des vidéos, notamment sur Vine, ça faisait plusieurs millions de vues, etc. Ouais. C'était un truc de fou.
Tu saurais dire.
Et d'ailleurs, c'est un gars qui a pas lancé la carrière, mais qui a managé beaucoup de carrières des plus gros créateurs américains comme Logan Paul. Donc c'était vraiment...
C'était l'époque de la Vine House, etc.
Oui, c'est ça, étaient tous ensemble.
Exactement, Vine Street. Il y avait une rue qui s'appelait Vine Street, on en parle dans le docu. Ouais.
Trop une folie.
Et tous les Viners étaient dans le même immeuble et ils faisaient des Vines ensemble. C'était les premières collabs un peu aussi, les premiers feats. Et ça cartonnait
Tu t'aurais expliqué pourquoi, tu vois, justement, ça avait... il a autant percé, parce que c'est vrai que s'est retrouvé aux États-Unis et comme tu le dis, il était connu vraiment dans le monde entier avec des contacts chez les plus grandes stars, que ce soit américaines, de cinéma, de plein de milieux vraiment différents.
Il a fait des Vines avec Robert De Niro, Ben Stiller, des trucs comme ça. Je sais pas, moi, je regardais pas beaucoup ce qu'il faisait, mais je sais que c'était hyper marrant et c'est assez intemporel. Alors, si vous regardez des vieux Vines de Jérôme, il y a encore des trucs hyper drôles. Donc, je pense que c'est ça qui plaisait beaucoup aux gens, quoi. C'est que ça leur parlait et c'était un des plus gros créateurs de la plateforme. Donc, il cartonnait partout dans tout ce qu'il faisait.
Ensuite, peut-être que pas mal de gens l'ont aussi connu avec la Love Army. Il est revenu avec ça, donc un mouvement. Caritatif, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'était que cette Love Army?
En gros, c'est un des premiers créateurs qui s'est dit qu'il fallait utiliser cette notoriété dingue pour essayer de faire le bien, entre guillemets. Et il s'est tourné vers l'humanitaire assez rapidement, 3-4 ans après qu'il ait percé sur les réseaux sociaux. Il a commencé en 2016 à faire des premières petites missions, jusqu'à une première très très grosse, qui était, je crois, en février 2017, en Somalie, sur la famine en Somalie. Et ça a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, Si tu étais créateur ou si tu avais Twitter, c'était impossible que tu n'en entendes pas parler parce que tous les plus gros créateurs, même les Français, ont partagé cette initiative. Il y a des millions de dollars qui ont été levés. Et après, tu as des YouTubeurs comme Le Grand JD qui sont partis faire des reportages là-bas avec lui, etc. Donc, c'était vraiment insane. Et après, il y a eu une autre mission qui s'est passée cette fois-ci au Bangladesh où moi, je les ai accompagnés. Notamment, c'est mon premier reportage pour Brut. D'ailleurs, c'est un peu marrant, la boucle est bouclée, quoi. Mais
Les Rohingyas, au passage, pardon, excuse-moi, je te coupe deux secondes. Il y a quelques lags, je crois, sur le stream, mais je pense que ça vient de Twitch, puisqu'on a checké, c'est pas chez nous, donc je pense que ça va passer. Je vois que c'est déjà réglé, si jamais. C'est tout Twitch, ça saute, comme ça, génial. Un petit F5, si vous voulez. Mais donc, du coup, 2018...
Et ça, ils avaient bombardé le truc de Somalie. Je suis allé vérifier, tu vois, pour voir... Parce que j'ai un DM avec Omar Sy, ce qui est fou quand même.
Wow.
Novembre 2017, du coup.
Ouais, tu vois, pour dire,
j'ai 16 novembre 2017, avec. Gros, il contactait beaucoup de créateurs pour essayer de faire des relais sur les réseaux.
Exactement.
Et justement, ils envoyaient toutes les infos par mail. Et voilà, je suis allé voir par curiosité pour savoir quand est-ce que c'était.
Parce que le pitch, entre guillemets, de base était de se dire, en fait, les médias ne parlent pas de certains sujets, etc.
Ce qui n'est pas complètement vrai, mais à l'époque, sur les réseaux sociaux, ça passait.
On peut faire la différence, tous les internautes, etc., les créateurs aussi. Venez, on se réunit tous et on essaie de faire la diff. En premier, donc en Somalie, comme tu l'as dit. Après, avec les Rohingyas, où il y a eu d'autres créateurs, D'ailleurs, il y a dans ton...
dans le documentaire, pardon, je te coupe.
T'inquiète.
T'as Mr. V, Seb, Natou, le grand JD, qui racontent parce qu'ils y sont allés aussi, ils ont participé à cette Love Army-là. Et ouais, c'était dingue parce qu'en vrai, ils ont levé presque 4 millions de dollars, un peu plus. Et ils ont développé des projets dans le camp. Et l'idée du documentaire, c'était de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi sur les réseaux sociaux, Jérôme Jarre a arrêté de communiquer sur comment ça s'était fini. Il a produit un rapport, mais qui est sorti des années plus tard.
Sorti en décembre,
Non, le rapport final de la Love Army est sorti officiellement en juin 2022. Mais normalement, un rapport dans une organisation, une ONG normale, c'est maximum 3 mois après la fin de la mission. Là, on est... On était presque 3 ans et demi après la fin, donc ça posait question. Et donc du coup, c'est aussi parti un peu de ce rapport, de comprendre qu'est-ce qu'il a raconté dans ce rapport et qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain.
Et qu'est-ce qui s'est passé un peu ? Alors, j'imagine forcément, pas tout nous dire du docu et tout, mais qu'est-ce qui, c'était quoi le problème ? Parce que le but était, donc, il y avait eu 2,2 millions de dollars de collectés.
Par une cagnotte française et un peu plus de 2 millions par une cagnotte américaine, par une page Facebook américaine. Et ça, il n'en avait pas trop parlé à l'époque aussi.
Et du coup, cet argent, le but n'était pas forcément de le donner directement à des associations, c'était de créer un peu son association. Comment ça s'est passé ?
Lui, à la base, son discours, c'était de dire on ne passe pas par des intermédiaires, on ne passe pas par des associations pour donner 100% des dons aux bénéficiaires. Ce qui, dans la réalité, en vrai, c'est... quasiment impossible, parce qu'il y a forcément, tu fais forcément travailler des gens, et les humanitaires ne peuvent pas être tous bénévoles. Enfin, tu vois, il y a plein de corps de métiers différents, que ce soit en logistique, en médecine, etc. Les gens, ils ont des familles, enfin, tu vois, tu dois payer les gens. Donc c'est impossible que tu aies 100% des dons qui aillent directement aux gens, concrètement dans la réalité.
Aux gens, non, mais à la cause, oui. C'est-à-dire que quand tu payes la personne qui te met en contact et tout, pour moi, ce n'est pas de l'argent utilisé à mauvais escient.
Ah non, bien sûr.
Donc c'est pour ça qu'il faut quand même le mettre.
Non, mais lui, son discours, c'était qu'il n'y aurait pas, justement...
Donc tous les intermédiaires sont bénévoles.
Sans des dons, irait dans les mains des bénéficiaires.
C'est un beau discours. C'est-à-dire que c'est lui qui prend en charge les frais annexes, quoi.
Exactement.
De ce que je comprends.
C'est un peu ça. Mais dans la réalité, en fait, c'est pas possible.
C'est pas possible de faire ça comme
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Et donc, après, en fait, ils ont mis quelques semaines à comprendre les projets qu'ils voudraient mettre en place. Et surtout, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas faire ça parce que la loi au Bangladesh ne permet pas de faire du cash transfert comme ça directement aux gens. Ce n'est pas légal.
Okay.
Et donc, du coup, ils ont dû forcément passer par des associations locales ou internationales. Et donc, bon, ça a été... il a mis un peu de temps à l'expliquer, mais en tout cas, il est passé par des assos locales et tout ne s'est pas très bien passé. Et c'est ce qu'on raconte. Parce que lui, ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, c'était super, que tout s'était très bien passé. Et nous, moi, j'ai juste déconstruit un peu ce discours pour comprendre réellement comment ça s'est déroulé.
Ouais, parce que toi, à l'époque, là-bas, justement, tu l'as accompagné pour Brut, où il y a beaucoup de moments aussi intimes avec lui. Enfin, t'es vraiment à des moments, ça se voit que vous êtes deux dans le truc,
deux,
que t'as aussi un peu tous les offs de ce qui peut se passer, des différents moments. Et est-ce que, parce que c'est vrai que j'ai vu sur Twitter, notamment, les gens, quand t'as partagé la bande-annonce, qui posent un peu la question de est-ce que, du coup, Jérôme Jarre, c'est un voleur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui... Parce qu'il a eu beaucoup ce message de on va sauver le monde tous ensemble, on va réussir.
Est-ce qu'il s'est laissé dépasser Internet allait sauver le monde un peu.
Est-ce qu'il y a eu un truc un peu de où il a été candide à se dire justement ok tout l'argent va pouvoir être utilisé et en fait il s'est confronté à la réalité du terrain en fait de l'humanitaire comment ça se passe vraiment. Est-ce qu'il y a eu escroquerie arnaque comment alors, tu qualifierais.
Bon après il faudra regarder.
Oui bien sûr bien sûr.
En gros c'est 5 épisodes, c'est 3 heures de film et je pense que les 3 heures sont importantes pour bien comprendre l'histoire qu'on veut raconter. Mais non, ce n'est pas l'histoire d'une escroquerie. Par contre, il y a eu des problèmes dans la manière dont l'argent a été dépensé. Et c'est ça qu'on raconte. Mais ce n'est pas une escroquerie.
OK. Non, mais juste pour le préciser aussi.
Non, mais parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, les gens ont réagi dans la bande-annonce. Parce que la fin de la bande-annonce, c'est le grand JD qui dit qu'il ne sait pas exactement comment l'argent a été dépensé. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que le rapport raconte beaucoup de choses. Mais dans la réalité, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et donc, lui, son interrogation, elle est liée à ça. Je ne sais pas exactement comment l'argent a été dépensé. Et on a répondu à cette question.
Et du coup, où es-tu passé, Jérôme ? C'est vrai que ça a suscité ce truc de en fait, on l'avait énormément vu.
Où es-tu, Jérôme ? C'est très simple. Si vous tapez Jérôme Jarre dans Twitter et que vous remontez à partir de début 2019, il y a des milliers et des milliers de tweets de gens qui demandent où est-ce qu'il est passé. Et donc, ce n'est pas une question que moi, je pose comme ça. En plus, j'ai discuté avec lui pendant le documentaire. Il a refusé de participer, mais on a discuté parce que je devais lui envoyer des questions. Et donc, le titre est beaucoup plus lié à Twitter, sur les réseaux sociaux. Ouais. Les gens se demandent depuis des années, mais qu'est-ce qu'il est devenu et pourquoi il a disparu.
C'est vrai qu'il était méga médiatique. Bah, j'ai eu la chance de voir les deux premiers épisodes qui recontextualisent un peu, qui permettent de se resituer à quel point c'est les premiers meet-up, c'est le truc où vraiment il déplace une foule folle.
Mais du coup, est-ce que le docu répond à la question ou partiellement? Tu vois, est-ce que
il faut le voir.
Non, mais en vrai. Ma question, c'est plus est-ce qu'à la fin du docu, je suis rassasié ou je suis en mode est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que tu vois, j'ai envie d'aller chercher ce document.
Oui, bien sûr, mais tu vas y aller.
Je me pose tellement de questions du coup, c'est parce que Jérôme Jarre, là on a vu énormément de gens savent même pas qui c'est le man, tu
vois. C'est vrai, c'est
mais nous on a j'ai pas envie de dire on a grandi avec, c'est pas l'époque de nos grands frères non plus, mais ce que je veux dire c'est que sur internet, c'était quelqu'un quoi, tu vois.
Ah ben, et comme on, je pense que les gens, les 25-35 ans, le connaissent vachement mieux que les 15-25 ans aujourd'hui, tu vois.
Et en toute cette question, cette interrogation, de dire putain, mais du coup, il est où, quoi? Est-ce qu'il a refait surface? Et il faut regarder
parce
pour
que,
savoir.
Il faut regarder pour. Non, mais en vrai, il est revenu sur les réseaux sociaux récemment. Ça coïncide un petit peu avec la période où on faisait le documentaire et où j'échangeais avec lui. Et après, oui, on répond à beaucoup de questions. Mais peut-être qu'il y a des questions qui restent un peu en suspens.
Est-ce que vous avez réussi à le contacter pour le documentaire?
Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je l'ai contacté. On a échangé par mail, etc. Mais
et il intervient dedans ou?
Il peut pas dire. Il peut pas dire plus. Il faut regarder. Il est très fort.
Mais
très fort.
Non, mais c'est vrai qu'on avait vu justement un peu le retour et tout de tout ça. Mais c'est vrai. Est-ce que peut-être le documentaire répond aussi à certaines questions pour parce que c'est vrai que nous, on a eu la chance de participer à certains mouvements caritatifs, le The Event, nous quatre, on y a participé, où c'est vrai que ça soulève des sommes énormes, où parfois il y a la question des associations.
Ah oui.
Je pense qu'on a tous ce truc de se poser des questions parfois sur les associations, quand on voit le salaire de certains présidents d'ONG ou autres, tu te dis, en fait, merde, l'argent que je donne, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il sert vraiment?
C'est hyper sain de se poser ces questions.
Il y avait eu ces sujets-là qui étaient. Toi, au The Event, justement, tu étais là l'année d'Action contre la faim, puisque tu avais fait des missions aussi au Congo, donc tu avais pu, toi, suivre sur place ce qui s'était passé. Si je dis pas de bêtises, c'était parti avec Zera.
Moi, j'ai suivi Michou en Côte d'Ivoire.
Ah oui, tu n'étais pas là.
Et c'était brut, j'avais organisé la mission pour qu'on accompagne Zera en Centrafrique.
Et qu'est-ce que, alors pas tu conseilles parce que c'est difficile, mais justement pour tout ça où la question est conne.
Mais par rapport à ce que tu dis, déjà, pour avoir eu la chance de vous filmer plusieurs années au The Event, pour moi, c'est ça le vrai modèle. C'est-à-dire que Zera et Dash ont toujours défendu le fait que votre talent, c'est de lever des fonds, de mobiliser les gens, comme l'a super bien fait Jérôme Jarre, parce qu'il y a des trucs extrêmement positifs dans tout ce qui s'est passé avec la Love Army, et on en parle. Mais l'humanitaire, c'est un vrai métier qui comprend plein de corps de métiers extrêmement difficiles ça se déroule dans des zones extrêmement difficiles d'accès, avec des autorisations très compliquées à avoir, et tu peux pas faire ce que tu veux. Particulièrement sur les Rohingyas, en 2017, c'est la crise la plus grave dans le monde, quasiment. Et même la famine en Somalie, en vrai, c'est extrêmement complexe, c'est un pays qui est très dangereux. Donc tu peux pas faire ce que tu veux. Donc... ce que j'aimais bien, notamment avec le The Event, c'est qu'en fait, on lève des fonds et on donne ça à des associations qui sont implémentées sur le terrain et qui savent normalement bosser dans ces endroits-là. Et ça, c'est vital et on le raconte bien dans le documentaire, c'est que oui, quelque part, il s'est un peu pris le mur du réel. Après, il n'y est pas allé à poil. Il avait une association internationale qui l'accompagnait. Il ne s'est pas rendu tout seul là-bas. Mais il a quand même eu des problèmes, c'est qu'il s'est confronté à la réalité, à la temporalité du terrain. C'est que les crises humanitaires... c'est un travail au long cours. Tu ne peux pas venir comme ça et implémenter ce que tu veux et rester peu de temps. Parce que si tu veux bien faire les choses, c'est sur la durée que ça se passe, le vrai travail humanitaire.
Tu as une question? Moi, je voulais apporter une précision par rapport à la comparaison The Event, qui est normale, parce que du coup, ça se réfère à un événement qu'on connaît tous. Mais là où Zerator, je trouve, a été malin dans The Event, c'est on fait une prestation et à côté... on œuvre parce que du coup on a une voix pour une cause qui nous parle tous, qui nous permet de nous rassembler. Mais à la base, on fait une prestation avec les gens. Si je dis pas de bêtises, Jérôme Jarre, c'était juste un très beau discours. Venez me rejoindre et on y va. On s'engage, on met des sous et on est sur l'aventure.
Ouais,
donc c'est pas vraiment comparable entre quelqu'un qui, tu vois, je veux dire bêtises, les enfoirés qui vont faire un show sur TF1 pour pouvoir récupérer des sous, et juste quelqu'un qui est en mode j'ai eu l'idée du siècle. On va être les plus gentils du monde.
Mais t'as raison. En fait, comparer le principe de faire une levée de fonds pour une cause. Et t'as raison, c'est pas.
Et du coup, je voulais quand même revenir sur le côté associatif. Est-ce que dans ton docu, on apprend, parce qu'en vrai, Jérôme Jarre, bon, pas je m'en branle, mais Est-ce qu'on en apprend plus sur justement les difficultés humanitaires d'utiliser cet argent? Comment? Ou est-ce que ça, tu l'as un peu
justement
survolé parce qu'on on s'occupe de où est Jérôme?
Non, mais c'est une bonne question.
Quelles sont les vraies difficultés? Pourquoi on n'arrive pas à utiliser? Tu vois, on parlait de l'argent tout à l'heure. Ouais. Oui, effectivement, il y a un abus quand un mec est surpayé. Par contre, payer le prix juste d'un passeur, d'une info ou de matériel ou de bouffe parce qu'on sait que ça va arriver à la destination qu'on veut au moindre coût, ça c'est pertinent. Mais oui, quand il y a un mec qui se surpaye parce que le gars.
Ouais, c'est voilà, ça.
Donc, est-ce qu'on en apprend plus sur toutes ces dérives-là,
en fait,
quoi?
Moi, ce que j'ai voulu, c'est que ça ne soit pas un truc à décharge contre Jérôme Jarre. Il a fait des erreurs, il a menti sur certaines choses et on déconstruit tout ça. Mais après, je voulais que ça reste un outil pédagogique parce que moi, je crois en ça. J'ai participé, j'ai fait des reportages qui vantaient le succès de la Love Army aussi, tu vois.
Ah, tu as fait au premier degré, quoi.
Voilà,
on l'a vu.
Comme je l'ai fait pour le The Event, etc. Après, j'ai fait ce travail d'essayer de comprendre comment ça s'est passé après. Et il s'avère qu'il y avait des irrégularités. Mais derrière, moi, je voulais que ça reste un truc à la fin où il y ait quand même un message positif. Déjà, je voulais qu'on reparle des Rohingyas parce que la situation a très peu évolué. Ils ont encore besoin d'énormément d'aide humanitaire. Et vu que les crises se multiplient, il y a de moins en moins de fonds qui sont donnés pour ces crises-là. Et après, je voulais que les créateurs puissent aussi s'exprimer pour raconter à la fois leur expérience, parce que ça n'a pas été
leur
facile,
vécu, quoi,
leur vécu, parce que ce n'est pas facile d'arriver. Il y avait Seb, par exemple, qui avait 20 ans seulement, et qui est arrivé sur une des plus grosses crises humanitaires au monde, où vraiment, tu vois des choses très, très difficiles. Donc, on est revenu sur ça aussi. Et après, je voulais que ça soit un outil pédagogique pour que les gens comprennent comment on fait une action humanitaire? Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça? Pourquoi il faut aller au-delà de la communication, dire voilà, on va construire 3000 maisons en 3 mois, etc. En fait, tout ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de la logistique, il y a des autorisations, il y a plein de choses qui font que tu ne peux pas développer des projets massivement. Même l'ONU ne faisait pas des choses comme ça, alors que c'est vraiment les instances de l'ONU, c'est ceux qui sont le plus présents dans ces crises-là. Et donc, c'était un peu pour déconstruire tout ça et pour donner aussi un outil pédagogique.
Ouais, parce que c'est vrai que je crois me souvenir. Mais
tu me diras si toi, t'en as tiré des choses, mais je voulais vraiment pas que ça soit un truc à décharge.
C'est gigaopaque comme truc, donc je pense que la vraie richesse,
ça, on l'aborde.
C'est
ça,
de comprendre tout ça.
Notamment, on aborde dans le monde associatif humanitaire. Pourquoi c'est opaque et pourquoi les fonds sont très opaques? Je ne veux pas trop spoiler parce qu'il y a vraiment un moment qui est clé là-dedans.
On va aller le mater ce docu. Hein,
y a un problème sur aussi la traçabilité des fonds qui dépendent aussi des associations, comment ils dépensent. Et parce que aussi dans ces endroits-là, par exemple, tu vois, il n'y a pas de facture, hyper dur de tout traquer.
Bien sûr.
Et Jérôme s'en est aussi rendu compte là-bas que c'était très difficile de
perdre tes sous de vue. Quoi, tu sais plus où ils partent. Ah, okay.
Exactement.
Déjà, ce que tu disais, de ne pas pouvoir donner directement l'argent aux gens, etc. Parce que
c'est pas pire ça aussi, frérot. Tu arrives dans un truc comme ça, tiens, 2000 pour toi.
Les
gars, ils vont se foutre sur la gueule, t'en arrives à prendre 150 000 tout ce
que tu veux dire. Je pense que cette réalité-là,
c'est pas l'idée du siècle non plus.
Quand t'es pas dedans, tu peux pas forcément avoir.
Tu peux pas avoir, oui, t'as pas des infos. En vrai,
c'est ça que Jérôme Jarre a dû découvrir, et pour ça aussi que les associations crédibles, validées, justement, dont on sait qu'ils font du bon travail, il faut aussi pouvoir leur faire confiance.
Et puis c'est aussi pour c'est aussi pour redonner un peu de crédit au travail des humanitaires, parce que y a des humanitaires qui risquent leur vie partout dans le monde aujourd'hui, dans toutes les zones dont on parle en ce moment. Et donc c'est pour redonner du crédit à leur travail et aussi pour remettre un peu les pieds sur terre. C'est-à-dire que, tu vois, Jérôme, il a beaucoup dit qu'il allait révolutionner le monde humanitaire alors qu'il
avait 27
ans. Il faisait des conférences dans les endroits les plus prestigieux du monde et il disait qu'il allait révolutionner le monde humanitaire. Il y a une phrase hyper symbolique pour moi dans le doc où il explique qu'il va disrupter le monde humanitaire comme Uber a disrupté les taxis et Airbnb l'hôtellerie. C'est à la fois extrêmement choquant et je lui jette pas la pierre, mais ça raconte très bien pourquoi il s'est aussi pris le mur du réel à un moment.
Bah écoute, non, mais en tout cas, Charles, merci d'être venu nous en parler. Ça sort demain sur Prime Video.
C'est ça.
C'est bien ça.
Les 5 épisodes d'un coup.
Et écoutez,
ah oui, il y a tout d'un coup.
Si jamais vous connaissez pas Jérôme Jarre,
j'ai pensé à toi, J.
C'est quand même l'histoire aussi d'Internet, parce que c'est quand même une grosse partie. Et merci pour tout le travail.
Merci de m'avoir
global, que ce soit pour ce documentaire ou dans l'ensemble. Mon cher Charles, on se voit une prochaine. Je te laisse repartir par là.
Merci
beaucoup.
Merci à tous.
Ciao, Charles. Je trouve ces propos très, très pertinents. Mais le travail de Charles Villa, mesdames et messieurs, c'est.
Ce qui est bien, c'est que c'est pas que les propos.
C'est quelqu'un.
Le gars va sur le terrain, tu vois.
Ah bah oui.
Et ça change tout.
Parce que,
des beaux parleurs qui savent raconter, il y en a. Mais
toi, t'en as déjà traqué, toi. Des beaux parleurs.
T'es un traqueur, toi.
Je les reconnais.
Toi, t'as tombé qui en beau parleur, là, récemment?
Non, mais je vais dire des blagues.
Dis pas de blagues. Après, il a raison sur un point. Ce qui est dur, c'est que quand t'as un chat noir dans cet écosystème associatif,
etc. C'est très dur parce que ça jette vraiment, ça tâche un peu tous les autres milieux et du coup, bah, tu te dis, ça, c'est pas ricochet, ça va foutre la merde un petit peu partout et donc c'est pas parce qu'il y a un mauvais que tous les autres le sont aussi, donc faut pas non plus ça puisse desservir la cause, comme on dit. Donc,
c'est ce qui a été dit, je pense qu'il y a une volonté de très bien faire, et c'est ce que tu ressens. J'ai vu que les deux premiers épisodes qui reposent un peu le contexte et tout, et ensuite tu vas plus en détail de ce qu'on m'a dit, mais où on n'est pas sur un escroc de A à Z, c'est une volonté de bien faire.
Non, juste bien sûr.
Vouloir changer le monde entier, c'est une réalité, ça disait dans le chat.
Surtout dans des zones.
Ça disait dans le chat, je me souviens à l'époque, Jérôme Jarre, en fait, s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas acheter de la nourriture et l'envoyer par avion comme ça. Enfin, mais bien sûr, mais c'est des trucs plus logistiques, de découverte. En tout cas, ça sort demain, si jamais, sur Prime Vidéo. Mais c'est vrai, n'hésitez pas à suivre aussi Charles Villa qui fait un très très gros travail dans toutes ces zones.